Ouellet, en direct.
En vacances.
Attention, attention, please.
Radio X.
Il aime ce riff là. Ça sonne, hein?
Oui, ça sonne.
Ça fait Ouellet en direct.
Ça fait Ouellet en direct. Ouellet en direct et Patricia, évidemment, qui vont revenir, on vous le promet, au mois d'août. Ils sont en vacances, ils sont juste ailleurs qu'en studio. C'est Nick et Gary qui vont être là pour une bonne partie de l'été. Quoique, la semaine prochaine, c'est le retour de Max. Peu importe, en fait, je vous promets de bons moments en ondes à Radio X. On a d'autres invités qui s'en viennent un peu plus tard dans l'émission. On aimerait ça parler du troisième lien encore. Uh-huh. À la messagerie, il y a des gens qui nous disaient encore un sujet que vous traitez abondamment à Radio X, le troisième lien. Moi, je pense que c'est un cheval de bataille, ou plutôt c'est une obsession, mais c'est surtout un sujet qui touche les gens. Maïté Blanchette Vézina pourrait prendre la parole dans les prochaines minutes, ici même à Radio X, ou Éric Duhaime. C'est la loto. J'ai pitché comme ça une perche en direction des deux. Pour en parler d'ailleurs de cette lettre, ou plutôt de cet article de Patrick
Lagacé, qui est assez... Moi, personnellement, le mot que j'attribue, c'est baveux.
C'est un peu un baveux.
C'est ça.
Il a déjà fait preuve là, qu'il était capable de d'être un peu chiant, le Pat. Là. Ça demeure quand même un journaliste qui n'a pas toujours tort. Là. On peut lui reconnaître des bons points. Mais dans le cas de cet article-là, il y a un véritable mépris. Là, surtout quand il parle des gens de Lévis.
Ça... Puis moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est quand il mentionne que on a le droit de critiquer cette idée d'un troisième pont à Québec, d'autant plus que l'ensemble des Québécois vont le payer à 10-15 milliards. Puis dans le même article, il nous parle du stade olympique. Hey, allô?
Mais je me suis levé, puis je fais toujours ma tournée des journaux là, le matin en me levant très tôt. D'ailleurs, ce matin, je me suis levé très tôt. On faisait de la radio avec Dan Gravel, donc aux alentours de 4 heures.
Oui.
Et quand j'ai vu le mot stade arriver dans son argumentaire, Pat Lag, j'ai trouvé que c'était... Là, on dirait qu'il nous trollait à côté. Là, parce que je pense que l'amour du stade, là, passé Laval, c'est plus relax. À Québec, on n'a pas des shirts du stade olympique. J'aimerais te faire rigoler un peu parce que, bon, c'est quand même important de le dire, mais on devrait attendre parce que je pense que quelqu'un vient de nous téléphoner. Qui est à l'appareil? Radio X, bonjour!
Oui, bonjour, c'est Maïté Blanchette-Vézina. Je pense qu'on a une entrevue ensemble.
Là. Effectivement, voilà. Comment allez-vous, Maïté, aujourd'hui, en ce beau 7 du 7? Êtes-vous à Montréal aujourd'hui pour la fameuse cérémonie commémorative?
Non, je suis à Québec en ce moment.
Dans votre résidence secondaire ou dans votre résidence principale?
Presque ma résidence nouvellement achetée à Québec, là, dans la région de Québec. Fait que, ça s'en vient bien. Termine le mandat à Rimouski, puis je m'en viens vers Québec très bientôt.
Maïté Blanchette Vézina, qui est députée de Rimouski pour le Parti conservateur du Québec. Aujourd'hui, on avait le goût d'avoir une discussion sur le troisième lien. Le troisième lien, qui est un sujet qu'on aborde ici et là sur les ondes ici à Radio X, est revenu en fait dans l'actualité dans les dernières heures. Patrick Lagacé a repris le ballon au bon en fait dans un article que vous avez peut-être lu ce matin dans la presse. Mais c'est surtout, je pense, l'idée que un ancien collègue à vous, Bernard Drainville, est revenu en fait avec un argumentaire qui l'avait rendu célèbre, disant « Bon, moi, lâchez-moi avec les GES ». Dans les dernières heures, on a compris qu'il avait reformulé cette phrase-là en disant « Lâchez-moi avec les experts », en disant « Les experts, on les choisit avant même l'émission d'un rapport parce qu'on veut d'abord et avant tout que les conclusions qui seront inscrites dans ce rapport-là nous conviennent ». Qu'est-ce que vous avez à dire, Maïté Blanchette-Vézina, concernant cette sortie-là improbable en plein mois de juillet, alors que le sujet n'était pas du tout sur la table?
Ben, j'ai envie de vous paraphraser Bernard Drainville encore une fois. Il y a quelques mois à peine, qui mentionnait que si on faisait un appel de projet comme la première ministre le fait en ce moment pour le troisième lien, ben ça signifierait la mort du troisième lien. Je pense qu'il a raison sur ce point. À mon avis, et tu sais, c'est la position que nous avons au Parti conservateur, c'est le tracé, il est... À mon avis, simple. Il est là depuis plusieurs dizaines d'années. C'est traversé par l'île d'Orléans. Pas d'essayer de faire encore une fois des promesses électorales parce qu'effectivement, je pense que c'est un dossier qui devrait avancer, qui aurait dû avancer. Mais comme au Québec, on a de la misère à faire cheminer nos projets importants, surtout pour la capitale nationale et nos régions, malheureusement. Ben encore une fois, on va avoir une élection sur un troisième lien. Puis moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est est-ce que vous voulez vraiment écouter ceux qui vous répètent depuis trois élections qui vont faire un troisième lien, ou vous allez écouter, je l'espère, ceux qui le disent depuis le début et qui veulent réellement le faire?
Vous, vous êtes rallié, Maïté, à l'idée conservatrice de faire un pont sur l'île. Et là, je pense à tous les Pat Lagacé qui nous écoutent présentement, des Montréalais en vacances à Québec, qui se capotent la vie en disant « C'est pas vrai, vous allez trucider l'île d'Orléans, Félix Leclerc, les pommes et tout. » Écoutez, là, il y a déjà des pylônes qui passent à travers l'île d'Orléans, à la hauteur de l'Ange Gardien, Bois-Châtel, pour situer les gens. C'est déjà un espace qui est occupé par des pylônes électriques. On pourrait jouxter un pont avec des pylônes. Ça a déjà été fait ailleurs dans le monde. C'est probablement la plus intelligente des propositions qui a été faite. C'est pas une idée qui a été très bien reçue auprès de la population. Est-ce que vous avez apprécié cette idée-là? Est-ce que vous avez marié les idées d'Éric Duhaime lorsque vous avez divorcé avec vos ex-amis de la CAQ?
Ben, en fait, c'était déjà... Moi, je viens de Montmagny, hein? Donc, oui. C'est déjà un projet que je connaissais, de traverser vers l'île d'Orléans. C'est la logique, je pense, des gens de la Rive-Sud, de dire, ben, pourquoi je monterais aussi haut, aussi loin que d'aller presque où il y a déjà les deux autres ponts? Si l'objectif, c'est de contourner ou de passer ailleurs. C'est aussi... on a déjà mis un peu plus de 2 milliards là, pour la réfection du pont là, qui est en train de se faire du côté de la Rive-Nord pour traverser vers l'île d'Orléans. C'est logique, c'est cohérent, c'est économique. C'est bon pour aussi le développement de Bellechasse, le développement économique de la Rive-Sud de Québec, qui en a bien besoin, en fait. Puis je voudrais même dire Charlevoix, puisque ça va déboucher vers une portion du secteur qui peut bénéficier aussi des échanges commerciaux qui peuvent se faire entre les deux rives. Donc oui, ça se fait. Moi, ce que je trouve déplorable dans l'article, la chronique de Patrick Lagacé aujourd'hui, c'est surtout l'utilisation des experts comme excuse à ouais. tout. Et quels experts on entend exactement? T'sais, moi, je revoyais et je relis encore le rapport du BAP pour le tramway. les experts du tramway, donc les experts plutôt du BAP, nous mentionnaient que le tramway, c'était pas la solution qui devrait être envisagée. Il y avait d'autres solutions comme les services rapides par bus pour la mobilité à Québec qui devraient être envisagées avant un tramway, d'autres tracés que celui qui est envisagé. Alors, facile de se rabattre sur des experts. On n'entend pas tous les experts quand on entend des experts dans les médias, j'oserais dire, montréalais. Donc, soyons prudents. Puis surtout pour des projets où on se dit, ça fait des années qu'on indique que c'est un engagement pour plusieurs partis politiques. Alors, pourquoi n'allons-nous pas de l'avant? Moi, je pense que... Et plusieurs l'ont dit à la Coalition Avenir Québec, c'est que le parti ne veut pas réellement le troisième lien. Les partis vont faire malheureusement des promesses à l'aube des campagnes électorales, trouver des solutions pour repousser à plus tard. Et c'est ce qui arrive dans le cas du troisième lien, malheureusement. Puis pour d'autres projets là, qui touchent Rimouski également, là, finalisation d'une autoroute, il y a un trou dans l'autoroute 20 hein, au Québec, entre Trois-Pistoles
oui.
Et Rimouski.
Oui.
C'est promis à chaque élection, puis les gens n'y croient plus, malheureusement. C'est un peu comme...
Les péquistes, les libéraux, les caquistes, tout le monde a produit.
Tout le monde
a promis, en fait, ce raboutage-là.
Eh oui, mais moi, ce qui m'a convaincue d'aller avec le Parti conservateur, c'est cette volonté-là de laisser les gens des régions aussi décider pour leur avenir, puis que ce soit pas nécessairement... les médias plus montréalais qui vont venir décider qu'est-ce qui est bon pour les gens des régions, les gens de Québec. Et c'est ça qui fait que je suis allée au Parti conservateur. C'est ce qui faisait que j'avais quitté la CAQ au départ en septembre et que presque huit mois plus tard, je suis allée avec le Parti conservateur. C'est cette conviction-là qu'Éric Duhaime a puis que le Parti a de dire, ben nous, on veut aller de l'avant puis on va aller de l'avant. Là. C'est pas... Il le répète depuis
c'est
des
années.
C'est pas une posture. C'est pas une posture, c'est pas une promesse, c'est un engagement réel, puis une volonté. Puis on l'a vu, Éric Duhaime, d'ailleurs, il y a une nouvelle publicité qu'on a mis de l'avant là, dans les derniers jours, mais Éric Duhaime, c'est quelqu'un qui gagne à être connu, c'est quelqu'un qui a des convictions de droite et qui ne s'en cache pas depuis des dizaines d'années, vous le connaissez
droite
bien.
Droite économique.
Exactement, et les gens, je pense, gagnent et vont gagner à lui faire confiance. En tout cas, moi, j'ai appris à connaître quelqu'un qui est authentique, qui est intègre et qui fait ce qu'il dit. Et ça, c'est précieux en politique.
Est-ce que le troisième lien, est-ce que dans les entrailles de la CAQ là, où vous avez été, est-ce qu'on sait que le troisième lien est, j'allais dire, une stratégie ou même instrumentalisée dans la région de Québec en vue des élections pour faire élire des députés?
Oh, oui. Bon. Puis j'ai même envie de vous dire, Luc Provençal l'a mentionné... que malheureusement, c'est plus les gens vers Montréal qui vont décider de ce projet-là. Puis ça revient à l'aube des élections maintenant.
C'est un peu un mirage, hein? C'est ça. On laisse miroiter l'idée. On ramène ça encore pour une troisième fois, une troisième élection de la CAQ sur le troisième lien. Mais moi, j'ai l'impression que ça se fera jamais sous la CAQ, là.
Ben, moi, je suis convaincue que ça se fera pas, en fait, par la CAQ. Puis, pire que ça, c'est des centaines, des dizaines, presque, ben, centaines, certainement, de millions qui sont dépensés pour les études qui sont mises à jour de tracés qui ne verront pas le jour. Et ça, c'est de l'argent des contribuables. Tu sais, quand les études se font, les tracés, les relevés sont pris, les ingénieurs travaillent. C'est de l'argent des contribuables qui sert à des projets qui ne voient pas le jour et qui pourraient servir à d'autres qui sont plus avancés, qui pourraient être plus avancés. Puis dans la limite, il faudrait que les partis et le parti s'assument. Mais c'est ce qu'il ne fera pas parce qu'il veut gagner une partie de Québec, malheureusement. Moi, je pense que, comme d'autres partis l'ont dit, je pense que le PQ ne veut pas de troisième lien.
Non, c'est un projet de gnochon.
Ben exactement. Donc, je pense que la CAQ devrait s'assumer. En tout cas, moi, je pense que les gens méritent de l'authenticité, surtout à la veille d'une campagne électorale.
Qu'est-ce que vous avez pensé de l'appel d'intérêt là, qui a été signifié dans les derniers jours? Est-ce que vous croyez à la sincérité de Benoît Charrette de mettre en plan ce projet-là? Est-ce qu'on n'est pas toujours en train de gagner du temps? C'est le sentiment que plusieurs gens de Québec ont. On repousse toujours. Alors oui, à partir de telle date, on aura un tel comité. Je veux dire, il y a toujours une étude qu'on est en attente. Il y a toujours une espèce de... C'est comme si on repoussait toujours à l'infini cette espèce d'idée-là du troisième lien pour, dans le fond, ne jamais la réaliser.
Tout à fait. C'est pas juste une impression. Moi, je pense qu'il gagne du temps. Et même, c'est Bernard Drainville qui le disait, là, de faire un appel de projet comme celui-là. Ça allait tuer le projet.
Croyez-vous à ça, vous, des gens de Québec qui souhaiteraient payer à chaque passage, comme on le fait ailleurs, à Montréal notamment, mais ailleurs dans le monde? Est-ce que vous pensez que c'est un modèle d'affaires qui est viable, un pont à payage? C'est une idée qui est supportée par la CAQ depuis l'arrivée de Mme Fréchette, mais je pense que c'est une idée qui fait son chemin aussi dans le cœur de certains libéraux, peut-être même de certains péquistes qui voient l'importance de peut-être au moins proposer une idée de projet comme ça aux gens de Québec à la prochaine élection. Vous, du côté du Parti conservateur, bon, vous avez déjà étayé votre pensée, mais...
Oui. Mais on n'est pas contre du tout le fait d'avoir des payages sur certaines autoroutes. Le problème, c'est qu'en ce moment... il y a des dépenses qui devraient être revues, des façons de faire aussi qui devraient être revues. Ça coûte plus cher au Québec faire des projets autoroutiers, des projets routiers, des projets de réfection avec moins de qualité. C'est ça qu'il faut regarder, la dépense en premier lieu. Et ensuite, si le péage puis l'utilisateur payeur, c'est un bon mode d'entretien de nos infrastructures, ça peut être vraiment une solution. Mais je vois pas pourquoi... À ce moment-ci, pour ce projet-là, les gens de Québec devraient payer, alors que je pense qu'il y a une réflexion plus profonde qui doit être faite sur les dépenses d'infrastructures, puis pourquoi ça nous coûte plus cher au Québec. Puis la réponse est en partie simple, mais quand on regarde dans l'Ontario, il y a moins de corps de métier, il y a des chasses gardées qui doivent être revues.
Il y a des coûts à la base qui sont déjà là, réduits.
Au Québec par rapport à l'Ontario.
En Ontario,
c'est moins cher, effectivement, par kilomètre. Puis ils ont plus de... Quand on regarde les données, là, ils ont une plus grande épaisseur de bitume. Ils vont avoir des routes qui durent plus longtemps pour à peu près le même climat que nous. Là. On n'est pas en Floride, en Ontario. Même chose pour le Nouveau-Brunswick. Alors, il y a plusieurs analyses qui devraient être faites en premier lieu sur la dépense avant de dire on va chercher d'autres sources de revenus. Parce que c'est le réflexe premier des fonctionnaires à Québec, là, je vous le dis, c'est souvent ça. Ils vont pas regarder la dépense réellement et pourquoi ça coûte plus cher. Ils vont regarder comment on peut avoir des revenus pour faire ce qu'ils veulent faire. On est convaincu au Parti conservateur que il y a un travail à faire avant sur la dépense puis voir pourquoi ça nous coûte plus cher au Québec.
Parlant de travail, depuis votre arrivée, Maïté, au Parti conservateur, quelle a été la réception de des gens de Rimouski? Vous êtes retourné quelques fois. Je sais que, bon, ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde. J'ai vu des vox pop à TVA, mais dans l'ensemble, est-ce que la réponse est bonne? Est-ce que vous avez trouvé des alliés dans votre entourage ou c'est tout le monde vous fait la baboune?
Non. En fait, je continue de travailler jusqu'à l'élection. Je demeure députée de Rimouski, puis c'est même ma priorité. Je suis toujours à Rimouski. Là, je suis à Québec, c'est circonstanciel.
Oui.
Mais
vous n'avez pas abandonné Rimouski, là?
Tout tout à fait. Non, non, aucunement. On continue de travailler les dossiers, de faire les suivis pour et les citoyens et les suivis de dossiers dans ce qui est actif. Puis dans ce qu'on peut faire aussi, on comprend qu'à la fin d'une législature comme là, c'est plus difficile de faire avancer certains dossiers. Mais non, non, toujours. Puis les gens sont très accueillants et les gens sont de plus en plus ouverts aux idées conservatrices. Hein?
Oui.
Rimouski, on n'avait pas nécessairement la connaissance de ce que c'est la droite économique.
Oui.
C'est arrivé un peu avec la CAQ et l'idée de la CAQ. Mais les gens sont ouverts, ils veulent des gens, des politiciens qui sont authentiques, qui gèrent bien les finances publiques, qui veulent aussi décentraliser les décisions. Ça parle aux citoyens. Et les gens, de plus en plus, là, ont de l'ouverture face aux idées donc du Parti conservateur. Moi, je ne serais pas surprise, peut-être pas pour Rimouski, mais pour d'autres comtés, qu'il y ait des bons scores, comme on a fait dans Chicoutimi, dans les régions du Québec, parce qu'on a des choses à présenter en campagne électorale, des engagements intéressants pour les régions qui sont tannées d'avoir des promesses en l'air à la veille des élections par des partis qui ne les écoutent plus une fois que le vote est fait.
Puis à l'interne, au Parti conservateur du Québec, on vise combien de sièges?
Ah ben écoutez, nous on veut certainement avoir la balance du pouvoir et faire le gouvernement, ce serait apprécié, mais on comprend qu'on veut au moins faire élire des gens pour
l'opposition.
Avoir cette balance. Exactement, on est un nouveau parti et je pense qu'on est capable dans un gouvernement minoritaire d'aller chercher, et même à une députée, on est allé faire des gains. En fin de législature.
Vous avez fait une différence, assurément.
Exact. Donc, je pense que même avec une bonne équipe en place et en étant l'opposition officielle, tu sais, ben, on aurait le poids politique pour aller faire avancer encore plus nos idées, les idées conservatrices.
Puis à l'époque, vous étiez à la CAQ, c'était facile de penser comme tout le monde, puis c'était dans la mouvance. Puis là, ben, vous êtes mis un peu en danger. Puis j'imagine qu'il y a des journalistes, puis même des citoyens comme ça, qui des fois, qui vous posent des questions un peu plus raides en se disant, là, Mme Blanchette-Vézina, là, dans ce dossier-là, puis... notamment dans le troisième lien, est-ce que vous avez évolué? Est-ce que vous avez... Donc, j'imagine que votre quotidien est plus difficile depuis votre admission au Parti conservateur.
Ben, moi, je suis allée au Parti conservateur parce que...
Par conviction?
Pas parce que je voulais garder une job, parce que je me disais, ben écoutez, peut-être qu'un jour, le premier ministre serait parti puis j'aurais gardé un poste de ministre. Et beaucoup de gens ont fait ce calcul-là là, à la CAQ en ce moment. Là, on ne se le cachera pas. Là, des gens qui ont...
Je suis ministrable, je vais-tu être réélu?
Moi, j'ai fait le choix de... Mes électeurs m'ont élu pour ces raisons-là et la CAQ me ment. Et je ne suis pas gênée de le dire. C'est pour ça que je suis partie. Parce qu'on mentait et on n'avait pas respecté les engagements qu'on avait pris envers les électeurs de Rimouski. Et par la suite, je me suis joint au Parti conservateur parce qu'Éric Duhaime a vraiment...
Il vous a courtisé longtemps, hein?
Oui, exact. Mais il a la volonté, et je l'ai vu, et il a gagné ma confiance, de donner du pouvoir aux régions. Et il m'a fait une place aussi pour qu'une plateforme soit développée en ce sens-là. Fait que sans vouloir vendre des punchs avant le temps,
non.
Mais on aura des bons engagements pour les régions. Puis c'est ça qui fait que je suis au Parti conservateur, c'est ces convictions-là où les gens qui ont une voiture, qui veulent une famille, puis qui n'arrivent pas à avoir accès à la propriété, qui sont tannés de voter pour des partis qui leur promettent mère et monde, puis qui ne respectent pas leurs engagements. Ils veulent être mieux entendus. Puis ça, c'est ce que fait le Parti conservateur. Puis c'est pour ça que je suis avec Éric Duhaime.
Est-ce que c'est possible pour un nouveau parti... On met le scénario que le Parti conservateur arrive au pouvoir. Bon, c'est un peu gros, mais mettons que ça arrive. Est-ce que c'est possible, dans un gouvernement au Québec, de vraiment faire des changements? Parce que on a tellement l'impression que la machine est grosse et qu'elle mène le gouvernement en place.
Ben c'est pour ça qu'il faut changer de paradigme et pas juste dire on va enlever de la paperasse pour enlever de la paperasse.
Ouais.
Parce qu'il faut revoir comment l'État québécois gère et qu'est-ce qui est géré par l'État central versus par d'autres disons, comme les MRC ou d'autres paliers, j'allais dire, au Québec. Donc, c'est en faisant ce travail-là qu'on pourra réellement enlever de la paperasse. C'est comme ça qu'en rapprochant les décisions du terrain, qu'il va y avoir moins de formulaires, moins de couches. La lasagne de réglementation, il faut la limiter. Il faut la réduire. Il
faut limiter les étages.
C'est ça qu'il faut réduire. Et c'est oui, la machine nourrit la machine. Là. On ne se le cachera pas. Les fonctionnaires, ils viennent produire des programmes qui justifient... C'est pas par mauvaise foi, là, je ne pense pas, mais ils justifient leur emploi par des programmes.
Mais la fonction publique est plus qu'opulente ici, là.
Ah, tout à fait. Puis j'ai pas la statistique devant moi, mais il s'est créé beaucoup plus d'emplois dans la fonction publique au Québec que dans le privé. Et ça, c'est pas bon. En fait, c'est pas bon dans la productivité, c'est pas bon pour notre PIB, c'est pas bon pour la répartition de richesses, c'est pas bon pour nos services parce qu'on a moins de richesses qui est créée dans ce temps-là, plus de dépenses. Et c'est pour ça qu'il faut, on doit se regarder franchement au Québec et se dire, est-ce qu'on a les moyens de garder cet État? Et est-ce qu'on a les moyens aussi de ne pas exploiter nos ressources comme on le fait en ce moment? Est-ce qu'on a les moyens de se dire qu'on doit faire tout et que c'est l'État central qui doit faire tout? Puis au Parti conservateur, ben, on pense que non. On pense qu'il y a moyen de faire mieux autrement, puis que les dollars, les impôts et les taxes qui sont versés soient mieux répartis, puis mieux desservis, puis qu'ils aillent plus directement dans les poches des citoyens.
Maïté Blanchette-Vézina, je vous laisse en vous posant une question qui a été posée à la messagerie dans les dernières minutes, en fait. Et puis peut-être que ça va être un test là, vous concernant, mais je pense que vous pouvez prendre quand même là, la question plutôt relax. Est-ce que vous avez encore des liens d'amitié avec des caquistes? Est-ce que vous avez encore, est-ce que vous textez encore Geneviève Guilbeault? Est-ce que vous êtes encore en lien avec Christian Dubé? Est-ce que Jonathan Julien mérite une carte à Noël? Est-ce que vous avez encore gardé certains liens où les ponts sont complètement brisés avec la CAQ?
Non, les ponts sont pas brisés. Puis tu sais, c'est certain que avec le gouvernement en ce moment, ça se resserre. Là. Les échanges sont différents parce que la campagne arrive. C'est comme ça avec à l'approche d'une campagne électorale, tous les partis se tiennent plus serrés. Mais non, moi j'ai encore des gens que j'apprécie, mais humainement, mais on n'a pas les mêmes visions politiques. Puis pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'avaient pas le courage de quitter alors que plusieurs pensaient tout bas ce que j'ai dit tout haut. Oui. Certains ont pris la décision de quitter comme moi, d'autres
non. Sonia Lebel a quitté dernièrement. Est-ce que ça vous a fait sourciller?
Ben, écoutez, je pense que plusieurs ont des convictions puis veulent parler tout haut maintenant que leur fin de mandat arrive. Moi, je pense que tu sais, chacun fait de la politique pour des bonnes raisons. Là, j'ai l'impression que chacun a ses bonnes raisons. Donc, il y a des bonnes personnes partout dans tous les partis. Mais c'est certain que moi, la Coalition Avenir Québec, c'est un parti qui fait du marketing. C'est du marketing. Ça va demeurer comme ça, bien qu'il y ait des bonnes personnes à travers ces élus.
Mais j'apprécie votre franchise, Maïté Blanchette-Vézina. Je vous souhaite la meilleure des chances pour le reste de l'été, en fait, parce que la campagne est véritablement commencée, même si on le sait qu'elle n'est pas officiellement commencée. Merci d'avoir pris la parole aujourd'hui sur les ondes de Radio X. Puis souhaitons-nous un troisième lien avant la fin du siècle, là, parce que je pense que les gens de Québec le méritent et que ben, c'est unanime ici, sur la rive sud, sur la rive nord. On ne peut pas penser que le statu quo est envisageable pour les 50 prochaines années. Merci beaucoup, Maïté. Bonne fin de journée.
Merci. Au revoir.
Wow. J'étais bien content qu'elle appelle. Oui. Je vous le dis, là, en toute transparence, on avait demandé à M. Bernard Drinville, comme ça, de prendre la parole aujourd'hui. Ça a été compliqué de le rejoindre, mais finalement, il ne pouvait pas prendre parole. On s'est retourné du côté de des élus du Parti conservateur, et c'est Maïté Blanchette Vézina qui a répondu à l'appel. Je pense qu'Éric Duhaime est en vacances, mais je ne veux pas révéler le lieu de villégiature d'Éric Duhaime parce que je ne le connais pas, évidemment, non plus. Nous, on prend une petite pause, 13h36. C'est le temps de reprendre son souffle à Radio X.
Ouellette, bon. En direct.
Ah, de quoi?
Petite pause. On revient dans pas long.
Radio X.